Il y a effectivement cette menace d'infection qui est posée. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on parle de la naissance d'une ville en parlant du cordon ombilical. C'est une image et c'est une métaphore qui va être filée dans la suite des versets. Tu ne fus pas lavé dans l'eau pour être nettoyé. Donc ça, c'est moins grave sur le plan physiologique, mais ça fait quand même partie, en général, des premiers soins que l'on donne, même si de nos jours, dans les maternités, on préconise plutôt d'essuyer que de laver, voire de rien faire du tout. Tu ne fus pas frotté avec du sel et tu ne fus pas emmailloté. Alors emmailloté, on voit bien que c'est le soin classique. Jésus lui-même est emmailloté, c'est dire si c'était une habitude. Quant au sel, on peut considérer que ça relève du rite magique qui permet de lutter contre les esprits mauvais. C'est un rite de purification ou de fortification. Oui, d'autres vont considérer que c'est effectivement pour le stimuler. Et c'est un anti-inflammatoire. C'est vraiment nécessaire pour les nouveau-nés, les anti-inflammatoires. On le laisse dans le champ parce que vous avez lu la suite. Mais là, ce qu'on regrette, c'est que ce soin classique n'ait pas été donné.
Il y a certaines civilisations qui gardent, qui possèdent,
le porton ombilical. Oui, il y en a aussi dont les parents mangent le placenta. Il paraît aussi, oui. Alors, on ne va pas faire la liste de tout ce qui est possible. Mais là, c'est plutôt intéressant de constater que c'est la liste d'une sorte de négligence à l'endroit du nouveau-né et une négligence qui peut conduire à la mort du nouveau-né, ne serait-ce que parce que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te faire une seule de ces choses, pour avoir compassion de toi, mais tu fus jeté sur la face des champs à cause de l'horreur qu'on avait de toi le jour que tu naquis. Alors, cette histoire de jeter aux champs, c'est assez classique, en fait, je dirais. C'était une pratique païenne, notamment pour se débarrasser des filles. Et alors, c'est quelque chose que l'on trouve notamment dans le Coran. Alors tout de suite, c'est pour vous dire que c'est condamné, hein. Mais c'est pas isolé. Enfin, c'est pas tout à fait étonnant. Dans la sourate 16, appelons ça le verset 59. Ça se pose en termes de questions. Il se tient à l'écart, loin des gens, à cause du malheur qui a été annoncé. Va-t-il conserver sept, au féminin, enfants, malgré sa honte, ou bien l'enfouira-t-il dans la poussière? Et puis dans la sourate 81, les versets 8-9, « Lorsque l'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été tuée, vous voyez, ça signifie qu'il y a là un motif connu, en fait, des filles qui sont, en fait, enterrées vivantes, jetées dans les champs. Dans la sourate 6 aussi, pour compléter, verset 137. « Ainsi, les dieux de nombreux polythéistes leur ont fait croire qu'il était bon de tuer leur enfant. » C'était dans le but de les faire périr eux-mêmes et de couvrir leur religion d'obscurité. Ils ne l'auraient pas fait si Dieu l'avait voulu. Laissez-les là, laissez-les à ce qu'ils ont inventé. Donc, à chaque fois, c'est sous l'angle de la condamnation, hein, mais ça montre que c'est une pratique courante et c'est une pratique qui a encore cours dans certaines régions, notamment en Kabylie. Lorsque le nouveau-né est handicapé, mais handicapé au sens où il risque d'être lourdement handicapé toute sa vie. Et il y a cette idée selon laquelle on va l'abandonner dans un coin, et s'il doit en réchapper, eh bien ça relèvera de la providence divine, en fait. Et c'est une manière de déculpabiliser les parents, en fait, de les décharger. C'est une pratique sociale couramment admise, en tout cas. Et c'est ce qui arrive dans un autre cas de figure avec le prophète Élie, qui finalement sera nourri par les corbeaux. Bon, il est adulte, mais il est sur le point de dépérir. Et en fait, la providence divine fait ce travail-là. On a un autre cas de figure, c'est lorsque Ismaël est sur le point de mourir avec sa mère, et en fait, un ange lui indique une source d'eau à proximité. Donc, c'est une façon de dire que, voilà, c'est quand même une façon de se débarrasser du problème, ça on est bien d'accord, mais c'est une solution qui a été mise en place aussi pour soulager la culpabilité des parents qui n'ont peut-être pas les moyens techniques que nous avons, par exemple. Donc, elle est abandonnée, Jérusalem, et au verset 6, c'est donc Dieu qui parle. « Je passais près de toi et je te vis, gisante dans ton sang, et je te dis, dans ton sang, vis, au sens de vivre, et vis dans ton sang, en fait. » C'est-à-dire, c'est une sorte d'injonction, c'est un appel. Ça va à l'encontre de tout ce qui a été dit jusque-là, c'est-à-dire un abandon, un laisser-faire. Et là, au contraire, il y a un attachement. C'est un peu comme le bon samaritain qui voit la personne laissée pour morte sur le bord du chemin et qui va en avoir souci, qui va en prendre soin. Et vous voyez, quand on parle d'appel à la vie, eh bien ici, il y en a un. Vie. Et c'est pas comme les vœux de bonne année où on vous fait toute une liste de bonnes choses et puis après débrouillez-vous avec. Là, il y a un appel à la vie et celui qui lance cet appel à la vie va mettre en place ce qui va permettre à cette prophétie de se réaliser. C'est une prophétie pas auto-réalisatrice, mais réalisée par le locuteur. Donc, chapitre 7, vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va être dans un contexte de création au sens de la Genèse. Je t'ai multiplié comme le germe des champs, et tu pris ta croissance, tu devins grande. Vous voyez, ce début du verset 7, c'est un peu cette idée de croissance de l'herbe des champs que l'on trouve dans le livre de la Genèse, dans le récit de création. Demain. Oui.
À tout le monde, bonjour. Au revoir.
Qu'est-ce qui me fait dire que nous sommes dans un contexte de récit de la Genèse? Il y a tout d'abord le cri qui est lancé. Vie, en hébreu, c'est raï. C'est le verbe raya, et c'est le nom de Ève, en fait. Ève qui est injustement traduite par Ève. Il vaudrait mieux la traduire par Viviane, par exemple, qui rappelle plus la vie. Donc, vous voyez, il y a déjà un premier écho. Il y a la mention de la vie. Et puis ensuite, il y a effectivement l'idée de ces champs, de cette herbe des champs et de cette croissance, de cette multiplication. Donc on est dans cette ambiance de Genèse 1, 2, 3. Et cela est en quelque sorte corroboré par la fin du verset 7 qui indique la nudité de la personne. C'est comme Adam et Raya qui sont eux-mêmes nus et qui n'en ont pas honte à cette époque. Donc, tu pris ta croissance, tu devins grande, tu parvins au comble de ta beauté, tes seins se formèrent et ta chevelure se développa. Chevelure, c'est peut-être un euphémisme pour les poils, en fait. C'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faudrait le traduire. Vous allez voir que la suite du texte, justement, est assez crue, en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment d'abstraction. Et c'est peut-être l'intérêt de ces textes, c'est de voir comment la langue biblique est une langue imagée, mais aussi très réaliste. Donc, on a cette croissance de la jeune, enfin, du nouveau-né qui devient jeune femme. Je passais près de toi, je te vis, et voici, ton âge était l'âge des amours, donc elle est devenue jeune femme, donc elle est devenue pubère. Et j'étendis sur toi le pan de ma robe et je couvris ta nudité. Alors, certains vont y voir là l'image du Dieu très moral qui ne laisse pas la nudité à découvert, etc. Et offusqué par le sein qu'il ne saurait voir, tout ça. Bon, évidemment, il n'est pas question de cela, en fait. C'est le rite classique du mariage. C'est une sorte de rite d'alliance. On trouve cela dans le livre de Ruth, par exemple. Dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 9, c'est même la demande qui est faite. Et on trouve cela aussi dans le livre du Deutéronome. Et donc étendre le pan du manteau, c'est plutôt le geste de l'alliance nuptiale, conjugale même, plus que nuptiale. Je passais près de toi, je te vis, voici ton âge était l'âge des amours, je tendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jurai, et j'entrai en alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Factuellement, c'est juste le pan de sa robe.
Donc, c'est juste pour comment il va après.
Mais de toute façon, après, il y aura tous les détails, voilà. Hein, si c'est ça dont il est question.
Le français courant, il dit qu'il met le manteau. Il a pris le temps du manteau sur toi pour en couvrir la
vérité. Oui, mais c'est pour dire qu'il ne se dévêtit pas de son manteau pour la recouvrir comme Humphrey Bogart le ferait sur Lorraine Bacall. C'est plutôt le fait de...
Il la prend carrément dans son manteau.
Ouais, après, vous avez les images qui vous plaisent. Ça va. Laissez libre cours à vos fantasmes, ça marche très bien, c'était court. Oui, allez-y, mesdames.
C'est réaliste. Littéralement,
mon aile. Oui, c'est... C'est ça, c'est le pan du manteau, en fait. Oui, oui. Et il y a deux façons de passer alliance dans la tradition biblique. Il y a la tradition sacerdotale, c'est celle que nous avons là. On le fait par serment. On dresse une alliance, en quelque sorte, et ça se fait essentiellement par le registre de la parole et de l'engagement. Et puis il y a l'autre que l'on... Oui, en quelque sorte,
mariage,
oui.
On se donne le mariage.
Oui, c'est ça. Et puis il y a l'autre façon de passer alliance, mais alliance au sens général, hein, pas simplement l'alliance du mariage. C'est couper l'alliance avec le rite que je vous avais déjà décrit. On coupe l'animal en deux et puis on passe au milieu des animaux en disant celui qui ne respecte pas l'alliance finira comme cet animal-là. C'est un rite d'imprécation. Couper l'alliance. Ici, c'est l'alliance par serment, donc c'est la tradition lévitique, ce qui correspond bien à ce qu'on a déjà dit depuis le départ. Ézéchiel est un prêtre. Si on regarde sur le plan narratif ce qui se passe, et sur ce que ça veut dire sur le plan théologique, c'est un peu cette idée selon laquelle Dieu est toujours là au bon moment. Dieu est toujours là à saisir le kairos, en quelque sorte. Le nouveau-né qui est en manque de soins, hop, Dieu est là. Cette jeune fille qui est en âge de devenir femme, hop, Dieu est là. Comme si Dieu était là pour les étapes essentielles, hein, pour favoriser les passages. C'est peut-être cette idée du Dieu hébreu. Abar, c'est passé, traversé. pouvoir passer ces étapes-là. Alors, il ne va pas se contenter de faire alliance avec elle, c'est-à-dire de l'épousailler. « Je te lavais dans l'eau, et je lavais à grande eau ton sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. » Donc on peut y voir un rite nuptial classique. Aujourd'hui encore, dans le judaïsme orthodoxe, les bains rituels sont pratiqués. Ils sont pratiqués notamment avant le mariage, mais aussi après chaque cycle menstruel.
En Inde aussi, il y a des questions très importantes pour ça.
Ce qui a comme effet de marquer le changement d'état, en fait. On est bien sur le registre du symbolique. Je pense pas que beaucoup aient l'idée que ça désinfecte vraiment, même si c'est de l'eau de pluie, à usage unique, etc. Mais c'est l'idée que la personne prenne conscience qu'il y a un avant et un après, le fameux rite de passage tel que Van Gennep en parle dans son étude. Je te oignis d'huile, c'est le rite de l'onction classique, comme on l'a pour le Messie. Je te vêtis de broderie et je te chaussais de peau de tesson. Alors ça vaut le coup de prendre une autre traduction parce que... Là, c'est du cuir fin. Je te ceignis de lin blanc et je te couvris de soie. Donc, on a les apparats de vêtements. Après, on va avoir les accessoires. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne de beauté sur la tête. L'élément le plus significatif, c'est la couronne, le diadème, qui est utilisé pour les mariages. Oui. Donc, vous voyez, dans les deux cas, dans la situation du nouveau-né, dans la situation de la jeune femme, on retrouve des attitudes un peu égales. Il y a à la fois le soin du corps, d'un côté le sel, de l'autre l'huile, et puis le fait d'envelopper le corps, d'un côté les bandelettes, et puis de l'autre côté les vêtements. Donc on est ici face à des rituels, disons, anthropologiques, qui montrent qu'on s'occupe aussi bien de l'aspect charnel que de l'aspect visuel. Il y a à la fois ce qui va concerner le corps et même l'intérieur, et puis aussi l'enveloppe, c'est-à-dire ce qui permet la relation à l'autre.
Mais c'est resté sur un plan historique dans votre
monde. Oui. Mais de nos jours encore, de nos jours ici même, on met peut-être plus de l'huile d'amande douce, mais on met du linéament, et puis on met un baby-gros. On ne laisse pas les enfants comme ça en couche, ou même sans couche. Donc si vous voulez voir la question du diadème, vous pouvez prendre le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11. La question de... avec Salomon, ce coup-ci. Et le Cantique des Cantiques, qui est toujours un lieu intéressant pour aller voir comment ça se passe au niveau du nuptial et du conjugal. Ensuite, une fois qu'on s'est occupé de l'apparat, tu devins extrêmement belle, tu prospéreras jusqu'à être un royaume. Et là, vous voyez, on retourne sur la dimension politique. C'est-à-dire que tout ce détour par l'anthropologie n'était destiné qu'à dire l'évolution de Jérusalem, qui passe de cité embryonnaire, comme toutes les petites cités-états cananéennes, donc misérable nouveau-né, à une capitale royale, donc capable d'enfanter, c'est-à-dire capable d'engendrer, capable d'essaimer. L'idée de la capitale, c'est qu'ensuite elle puisse établir un réseau, qu'elle puisse être... à l'initiative d'autre chose. Comme le disait Victor Hugo, je crois, Paris tous, et c'est la France entière qui tremble.
C'est le pouvoir, quand
même. Oui, ouais, c'est ça, mais c'est le, plus l'autorité que... Le, enfin, oui, là, c'est le pouvoir. Mais... Bon, donc, ce petit rappel pour dire tout ce que nous venons de dire, c'est une métaphore qui parle de l'évolution de Jérusalem. Et qu'est-ce que dit cette métaphore? Elle dit que Jérusalem ne s'est pas construite à la force du poignet. C'est-à-dire que Jérusalem serait bien inspirée de ne pas considérer que c'est à elle qu'elle doit son essor. Quelqu'un s'est occupé d'elle. Elle ne peut pas se confier qu'à elle-même. Ce n'est pas en elle que se trouve toute sa valeur, tout son trésor. On va le voir juste après. Donc, elle mange de la fleur de... Oui, là, j'ai sauté. Elle mange de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Ce sont des produits manufacturés. J'aurais pu vous les faire deviner, mais ce n'est pas des produits que l'on cueille ou des produits qui sont immédiatement comestibles. La main de l'homme y est passée. Donc ça montre qu'on est dans le registre de la culture. Et ça, ça sera très important dans toute la pensée biblique. C'est que la distinction, notamment entre l'animal et l'humain, c'est que l'humain cuisine en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il donne du sens à ce qu'il consomme. Il ne se nourrit pas de façon bestiale juste pour assouvir sa faim ou sa soif. Et c'est ce qui va être reproché tout à l'heure à Jérusalem, c'est qu'elle se conduit de façon bestiale en étant juste guidée par sa faim et sa soif. Donc, tu devins extrêmement belle, tu prospéreras jusqu'à être un royaume. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite par ma magnificence que j'avais mise sur toi, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, petit rappel, ta beauté, autrement dit ta renommée, ta splendeur, ta gloire, ton honneur, ce n'est pas que grâce à toi en tout cas. Donc, un peu de reconnaissance, s'il te plaît. Ensuite, est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez le droit de réagir et d'apporter les compléments nécessaires aussi.
Oui, mais c'est pas de sa faute.
Mais on va voir. On va voir. On va pouvoir débattre. Mais... Alors bon, c'est un mais qui est de la traduction. En tous les cas, le mais est justifié par le fait qu'effectivement, il y a un tournant ici. Le changement, c'est maintenant. Oui. Oui. Alors le mais, c'est un mais de la traduction, c'est-à-dire que en hébreu, c'est la même lettre que le et. C'est-à-dire que c'est une interprétation. Ça reste un wav, mais on comprend bien que c'est comme ça qu'il faut le traduire. En tous les cas, ça donne du sens, même si c'est pas dans le texte à la lettre. Tu te confias en ta beauté, tu te prostituas à cause de ta renommée, ou en profitant de ta renommée. C'est pas la renommée qui conduit nécessairement à la prostitution, mais on profite de la renommée pour pouvoir se prostituer avec plus de facilité. Et tu prodigas tes prostitutions à tout passant, c'était pour lui. À tout passant, c'est à tout hébreu aussi. Hein, c'est à tout. Voilà. Mais oui. Mais vous voyez, c'est quand même. Enfin, on peut toujours avoir dans l'oreille que il est question ici de l'hébreu. Mais c'est effectivement le tout venant. Tu pris de tes vêtements et tu te fis des hauts lieux de diverses couleurs et tu t'y prostituas, ce qui n'était jamais arrivé et ne sera plus. ça, la traduction est bonne sur ce qui n'était pas venu et sur ce qui ne sera pas. Donc, ça signifie qu'il y a l'élaboration d'un commerce, c'est-à-dire qu'on met en place les moyens de pouvoir exercer cette prostitution. On ne se contente pas de s'offrir ce qui passe, vous voyez, on crée des lieux pour cela. Les hauts lieux sont réputés être des lieux d'idolâtrie. On les trouve, par exemple, dans le psaume 78. C'est les lieux qui concurrencent Jérusalem. C'est des lieux où on va adorer soit des idoles, soit d'autres divinités. Hauts lieux parce que on essaie toujours de mettre les lieux de culte en hauteur. Ça permet de dire qu'on est au plus près de la divinité qui est symboliquement au-dessus.
Là, il s'est déjà passé quelque chose avant, parce que comment elle a changé d'objectif au cours de sa vie ?
Alors, elle change d'objectif au cours de sa vie, mais en fait, on ne donne pas la raison. On ne fait que décrire ce changement.
Oui, mais la raison, c'est intéressant.
La raison est intéressante, mais on va plutôt, entendre l'une des défenses qui est tombée, en quelque sorte. L'une de ses protections qui est tombée. Bon, en fait, ça va être une histoire de narcissisme. On va le voir de deux manières. À la fois parce qu'on dit que tu t'es confié en ta beauté, ce qui est déjà une histoire de narcissisme, et puis après, on le verra avec la question de la jeunesse. Verset 17, tu pries tes objets de parure, faits de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en fis des images d'un mâle, et tu te prostituas avec elle. Donc, ici, on a une première perversion, c'est-à-dire qu'on utilise l'économie à une autre fin que ce à quoi elle était destinée, et en plus, on utilise l'argent de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous appartient pas, a priori. Donc là, il y a l'histoire d'une perversion au sens d'un détournement. Après la perversion économique, on va avoir la perversion cultuelle. Tu pris tes vêtements de broderie et tu les en couvris, donc les fameuses images masculines, et tu mis devant elles mon huile et mon encens. Donc, c'est le moment où on utilise la religion pour son commerce personnel. Il y a une perversion du cultuel. C'est-à-dire que là, on utilise des images cultuelles pour dire on instrumentalise la religion pour son projet personnel. Donc, deuxième perversion. Troisième perversion, et mon pain que je t'avais donné, la fleur de farine et l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu l'es mis devant elle en odeur agréable, il en a été ainsi, dit le Seigneur l'Éternel. Donc là, la troisième perversion, c'est la perversion culturelle. Ce qui devrait être dans le registre du soin prodigué pour le vivant, est utilisé pour entretenir cette idolâtrie-là. Donc c'est quand les objets culturels sont manipulés pour en faire ici l'instrument d'une idolâtrie. Donc en fait, là, on continue la typologie qui doit nous servir à être attentif au risque de perversion pour aujourd'hui encore. Quatrième perversion, tu pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur offris en sacrifice pour qu'ils les mangent, qu'ils les dévorassent. Était-ce trop peu que ta prostitution ? Donc, là, la quatrième perversion, c'est la perversion de la natalité. C'est-à-dire qu'on va instrumentaliser les enfants. C'est comme si les enfants ne naissaient plus par grâce seuls, bon, ce qui est assez rare, mais on pourrait espérer que ce le soit plus, et qu'on en faisait, je ne sais pas, de la chair à canon, par exemple, voyez, pour prendre une autre image, ou qu'on en fasse des petites mains dans des ateliers, dans des industries. On voit que ce n'est pas nouveau, oui. Mais le fait que ce ne soit pas nouveau n'est pas forcément le drame qui se pose au texte biblique, qui est plutôt là comme une pédagogie pour que nous ayons en tête qu'il y a quatre perversions possibles. La perversion économique, la perversion culturelle, la perversion culturelle et la perversion de la natalité. Et que lorsque sur l'un de ces quatre aspects, il y a un problème qui commence à se poser, non seulement les autres peuvent arriver, mais on peut se dire qu'il faut être vigilant et mettre court là. Oui, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, fut un moment où la natalité a été mise en jeu pour résoudre le conflit, c'est-à-dire que l'idée, c'était de faire plus d'enfants que les autres. Et ça pose problème, pour le dire très calmement. On peut se rappeler qu'il y a eu des manipulations de masse par les instruments culturels, par exemple, et que la culture peut être utilisée à des fins de manipulation et pas à des fins de communication, par exemple. Bon, voilà. La religion instrumentalisée pour les fameuses guerres de religion qui n'en sont pas, ça, c'est un phénomène connu par les croyants. Le verset 21, « Tu égorgeras mes fils et tu les livreras en leur consacrant. » Donc ça, c'est le rituel sacrificiel classique. C'est ce qu'Abraham est sur le point de faire à Isaac. « Égorger », c'est « squeak ». Vous disiez ? Oui, oui, au moment où c'est écrit, ça n'a pas été aboli, puisque c'est un des premiers textes bibliques. Mais de mon point de vue, c'est-à-dire que le texte d'Abraham sacrifiant Isaac, à mon avis, n'existe pas encore. L'histoire certainement court. Mais c'est à partir de la réflexion de gens comme Ézéchiel que le Pentateuque va se rédiger et se fixer. Beaucoup de traditions orales existent. Et certainement le cycle de Jacob, le cycle d'Abraham existent. Mais là, on va avoir peut-être la réflexion qui permettra d'aboutir au texte que l'on connaît actuellement. C'était le cas aussi pour le récit de création dans la Genèse. Et avec toutes tes abominations et tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse quand tu étais nue et découverte, gisante dans ton sang. Donc, le reproche, enfin, la cause, elle est là, en fait. Hein. La cause, c'est l'absence de conscience, l'absence de mémoire, l'absence de convocation de l'histoire. C'est quelque chose qu'on retrouvera aussi dans le courant deutéronomiste, avec cette fameuse profession de foi, « Ton père était un araméen dépérissant ». Alors, un peu d'humilité, et tu te souviendras aussi de l'étranger qui est dans tes rangs, parce qu'avec la veuve et l'orphelin, il se pourrait bien que ce soit deux dont il faille prendre soin en particulier, vu comment tu étais et vu les soins que j'ai dû te prodiguer. Donc on est dans cette non-conscience, dans cette inconscience stigmatisée. L'absence de mémoire de la condition première est ici regrettée, pour le dire de façon très euphémique. Si je devais m'hasarder à une transposition, je dirais que, par exemple, il est assez fréquent que le dernier arrivé dans un pays ferme la porte derrière lui, comme on dit. C'est-à-dire que les plus nationalistes soient les derniers arrivés, les plus anti-immigration soient les derniers arrivés. Ils ne se souviennent pas de leurs conditions premières, ou alors ils s'en souviennent trop bien et le déni fait son œuvre.
Et
Ensuite, il arriva après toutes tes iniquités, avec une petite imprécation, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Alors ça c'est intéressant, que tu t'es bâti un lieu de débauche et que tu t'es fait un haut lieu dans toutes les places. Donc là il y a une systématisation des lieux de débauche, mais sur le plan culturel ça va peut-être vous amuser parce que ce qu'on appelle ici le lieu de débauche, le gev, est traduit dans la Vulgate en latin par... Allez, je vous laisse mariner parce que ça ne présente aucun intérêt. Par lupanar. Voilà, la Vulgate traduit ici par lupanar. Donc tu te fais des lupanars. Dans le grec de la Septante, c'est des maisons de porneia, en fait. Donc là où l'éros n'a pas sa place. Un sacré bordel. Donc, au bout de chaque chemin, ou au début de chaque chemin, enfin sur chaque chemin, c'est roche la tête, ça peut être soit le début, soit l'extrémité. Tu as bâti ton haut lieu et tu as rendu ta beauté abominable. Donc, vous voyez, perversion de ce qui était un élément de grâce. Et tu t'es découverte à tout passant et tu as multiplié tes prostitutions. Donc, l'activité divine avait été de couvrir, et là, l'activité humaine consiste à découvrir. Alors, je vous ai mis 1, 2, 3, qui ne sont évidemment pas dans le texte, pour montrer une petite progression. Tu as commis fornication avec les fils de l'Égypte, tes voisins, au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour me provoquer à colère. Et voici, j'ai étendu ma main sur toi et j'ai diminué ce qui t'était assigné, et je t'ai livré à la volonté de celles qui te haïssent, les filles des Philistins, qui ont honte de tes voies d'infamie. Donc, premier élément, l'Égypte, qui est considérée comme une sorte d'ennemi héréditaire, parce que en fait, c'est le lieu de la servitude. C'est la maison d'Égypte, c'est la maison de l'esclavage. Et vous voyez, c'est considéré que le corps vigoureux des Égyptiens vaut mieux que... il vaut mieux se confier au corps vigoureux des Égyptiens plutôt que de risquer d'être l'esclave. C'est vraiment l'exemple type des Égyptiens des Hébreux qui sortent d'Égypte, qui finalement en viennent à regretter les marmites pleines d'Égypte, sachant que s'ils retournent là-bas, ils se privent de la liberté. Ensuite, la question des Philistins, toujours sur le plan historique, ça peut être l'évocation du moment où les Philistins commencent à rogner le royaume. Les Philistins vont commencer à avancer. Alors on a le récit des batailles entre David et les Philistins, Goliath par exemple. Et donc toutes ces échauffourées peuvent être éventuellement évoquées dans cette mention-là. Ensuite, l'Assyrie. Tu as commis fornication avec les fils d'Assur parce que tu ne pouvais être rassasié. Tu as commis fornication avec eux et même tu n'as pas été rassasié. Donc vous voyez, il y a une sorte d'insatisfaction. Ça ne suffit pas. On n'est pas rassasié. Et ça va être le motif qui va être développé. La Syrie, c'est ce qui va tomber sur le royaume du Nord, Israël, avec la chute du royaume du Nord en 721. Ensuite, et tu as multiplié tes prostitutions avec un pays de marchands, la Chaldée, donc les Chaldéens, et même avec cela, tu n'as pas été rassasié. Oh, que ton cœur est faible, dit le Seigneur l'Éternel, que tu aies fait toutes ces choses, l'œuvre d'une prostituée éhontée. Et là, on reprend la phrase du début pour clore cette section. Te bâtissant ton haut lieu de débauche au bout de chaque chemin, et tu as établi ton haut lieu dans toutes les places. Donc, vous voyez, c'est... c'est cette pathologie qui fait qu'on n'est jamais satisfait. Il y a une insatisfaction permanente. Et ça, c'est vraiment symptomatique, en fait. Et ça correspond au fait que lorsqu'on remplit sa vie avec du vide, eh bien, forcément, on n'arrive jamais à remplir sa vie. Si je devais le dire avec des mots de psychologie de comptoir d'aujourd'hui, disons. Si on ne se relie pas, si on ne s'oriente pas vers ce qui est vraiment structurant, alors c'est un peu comme la course à l'échalote. Et le narcissisme est dans cette quête éperdue de la satisfaction qui ne se résout jamais. Et on le verra un peu encore après avec la question de la jeunesse, vous avais-je dit. Oui, un petit peu plus fort pour que tout le monde vous entende.
C'est pas que ça, c'est aussi le fait qu'elle était reliée avant. Elle est devenue ce qu'elle est devenue parce que l'éternel était là. Il y a cette notion de l'oubli de l'éternel qui, justement.
Oui, une absence de reconnaissance.
Oui, de reconnaissance de ce que Dieu a fait.
Oui, oui.
Et de ce qu'il pourrait faire encore.
Oui, il y a cette.
Elle s'est endormie avec son narcissisme.
Oui, elle n'a pas vu qu'elle tirait son existence d'un autre qu'elle-même.
Oui.
Et du coup, occultant cela, eh bien en fait, elle se vide.
Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle se détruisait elle-même par son propre narcissisme.
Non, c'est la raison pour laquelle un prophète est institué. C'est pour lui faire savoir. Hein, ça commence comme ça. Tu feras savoir. Parce qu'elle ne le sait pas, en fait.
Oui, mais n'empêche qu'elle était dans cet état-là. Ce que je veux
dire. Oui, oui, mais... quand on est dans ce type d'état, en fait, on a besoin du regard extérieur pour en prendre conscience. En fait, on est tout à fait d'accord. D'accord. Ensuite, aggravation de la situation. Et tu n'es pas comme une prostituée en ce que tu dédaignes le salaire. Femme qui commet l'adultère, tu prends des étrangers à la place de ton mari. On fait des cadeaux à toutes les prostituées, on les paye quoi. Mais toi, tu fais des cadeaux à tous tes amants. Et tu les engages par des présents à venir vers toi de tous côtés pour tes prostitutions. C'est-à-dire que, vous voyez, on est dans le cas typique d'un moment de l'histoire où on n'a pas les concepts, mais la réalité est bien là. C'est-à-dire que, on ne peut pas parler de narcissisme dans le texte biblique parce que c'est un concept qui n'a pas été développé dans cette culture-là. Mais du coup, il est quand même raconté. Et vous voyez, on n'est pas dans la logique de la prostitution commerciale comme on a pu en débattre ces dernières semaines. On est dans le registre de cette personne qui, par la succession des aventures, essaie de se trouver. Il ne se trouve pas, en fait.
C'est une forme de recherche du pouvoir. Elle a le pouvoir sur les hommes, puisqu'elle leur donne des cadeaux.
Ben, elle n'a pas le pouvoir sur les hommes, parce qu'elle doit donner des cadeaux pour qu'ils...
Enfin, elle pense qu'elle a le pouvoir. Elle veut le pouvoir.
Oui.
Elle achète le pouvoir.
Oui, mais... Oui, c'est ça. Et c'est en ce sens qu'elle ne l'a pas. Oui. Et qu'elle ne le possédera pas, en fait. Ça, c'est la génie du texte.
Voilà, on s'incline, on a du respect pour la vraie prostituée et pas pour celle-là.
Celle-là devient vraiment odieuse. Ouais, elle casse le boulot, là. C'est de la concurrence éhontée. Mais, voyez, même la prostitution est pervertie dans sa logique. C'est pour vous dire jusqu'où il y a une totale dérégulation. Mais en parlant de dérégulation, on peut s'embarquer sur des questions économiques contemporaines. Et on peut se demander, par exemple, quel est le sens de ce qu'on appelait autrefois le bakchich. Je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, mais ça a un nom un peu plus officiel de nos jours. Les rétrocommissions, les fameuses rétrocommissions. C'est-à-dire quand on commence à payer pour obtenir un marché, par exemple, voyez, quand on, etc. C'est là le signe que le système est perverti. En tous les cas, il cesse d'être sain. Et quand on obtient un marché parce qu'on aura graissé la patte de quelqu'un, ça dit quelque chose sur une dérégulation. Oui. Alors, pour finir avec cela, je vous rappelle juste que quand Adam Smith parlait de la régulation du marché par la main invisible, la phrase continue. C'est-à-dire qu'une régulation du marché par la main invisible, parce que les acteurs sont des êtres moraux. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement moral. C'est-à-dire qu'il y a une, c'est la rencontre de conscience et pas de voyous. Donc il y a une régulation possible par le marché quand il, dans la perspective d'un auspice. Après, on peut critiquer le fait qu'il n'ait pas mis suffisamment de protection pour vérifier qu'on soit bien dans un cadre moral. Bon. Mais ici, vous voyez, on est dans cette dérégulation aussi. Ce que certains appellent le néo-ultralibéralisme post-libéral. Il arrive... Alors, pourquoi est-ce que je l'ai surligné ? Parce que on a, dans le chapitre 23, au verset 40, la même chose. C'est-à-dire que c'est une histoire parallèle avec une autre métaphore, et c'est Jérusalem qui, en fait, va chercher la chair fraîche. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'occasion qui fait le larron. C'est que Jérusalem crée les conditions pour faire fonctionner ce système-là. Donc elle va au-devant d'eux. Elle est donc proactive. Je retourne au chapitre 16, verset 34. Et il arrive chez toi dans tes prostitutions, le contraire de ce qui se voit chez les femmes, donc c'est ce que vous disiez, hein. On ne te suit pas pour commettre fornication, et en ce que tu donnes des présents, et qu'on ne te donne pas de présents, tu fais le contraire. Donc, voilà, il y a un mauvais renversement. Mais je vous en prie, oui, bien sûr. Non, très bien, non, allez-y. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de frontières, oui. La frénésie, elle est dans la non-satiété, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une frénésie, par exemple, dans toujours plus de profit. Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte d'emballement du marché, ici. Mais ce qui va être mis en évidence, c'est que... il n'y a pas un emballement inexorable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle aurait d'abord pu ne pas commencer et elle aurait pu arrêter. Et en fait, là, elle va être mise en situation d'arrêter. Mise en situation, c'est-à-dire qu'on lui envoie un prophète pour qu'elle prenne conscience. Parce que quand la première barrière tombe, la deuxième, c'est le jeu de domino, en fait. Et on se laisse happer dans un système. Vous savez, on pourrait épiloguer à l'infini sur l'affaire Cahuzac. Mais sans refaire l'affaire, une fois qu'on a menti, c'est fichu. C'est-à-dire qu'on est obligé d'enfiler les mensonges après les autres, sauf si on a une vraie force morale qui nous permet de dire stop, c'est-à-dire une vraie conscience, parce qu'on se rend compte que ça va aller trop loin et qu'on s'éloigne de plus en plus à la fois de soi et puis du bien, disons, pour prendre un terme générique. Et ici, c'est ça la frénésie. C'est que on est obligé de tout sacrifier à cela. Et c'est ça, c'est comme les comportements addictifs. en fait, ça prend toute la place et ça devient la seule structure, ça devient la logique propre, en fait. Donc, il y a effectivement un emballement. Et aujourd'hui, par exemple, si je reprends sur la dimension économique, vous voyez, on a eu plusieurs soubresauts de crises successifs avec quand même des catastrophes. Enfin, je veux dire, Lehman Brothers, c'était quand même significatif. On a eu aussi la Société Générale, c'était significatif. On a eu des effondrements boursiers, c'était significatif. Bon, la vérité, c'est que les banquiers continuent comme ils faisaient avant. C'est-à-dire qu'il y a eu zéro changement. Et donc, il y a un emballement possible. Et si on n'ouvre pas les yeux des individus, ben en fait, ça ne pourra que continuer. Parce que tant qu'il y a des individus qui font marcher le système continue. Parce que c'est, en quelque sorte, malheureux, mais c'est le premier qui s'arrête qui perd. C'est-à-dire que celui qui sort du jeu perd alors que les autres continuent à gagner. Ou autre chose, mais enfin bon, voilà. Donc ici, on pourrait faire une lecture semblable à celle que Jacques Ellul fait du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire une lecture sociale et politique, c'est-à-dire une lecture de ce texte comme une critique des fonctionnements de la société. Pas critique au sens où il s'agit de dire du mal, critique au sens où il s'agit de porter un jugement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la métaphore qui est utilisée, c'est une métaphore individuelle. C'est une métaphore qui va en fait engager la responsabilité individuelle et qui n'est pas du tout dans la logique de la responsabilité collective. On l'avait vu avec l'autre passage sur les parents qui mangent les raisins verts, les enfants qui ne doivent pas avoir pour autant les dents agacées. C'est-à-dire que chacun est responsable pour lui-même et devrait assumer ses propres torts ou ses propres réussites d'ailleurs. Donc, le verset 36. « Ainsi dit le Seigneur et l'Éternel, parce que ton argent a été dissipé et que ta nudité a été découverte à tes amants par tes prostitutions et à toutes les idoles de tes abominations et à cause du sang de tes fils que tu leur as livré, à cause de cela, voici, je rassemble tous tes amants avec lesquels tu te plaisais et tous ceux que tu as aimés, avec tous ceux que tu as haïs, et je les rassemblerai de toutes parts contre toi et je leur découvrirai ta nudité. » Et ils verront toute ta nudité. Et je te jugerai du jugement des femmes adultères et de celles qui versent le sang, et je te livrerai au sang de la fureur et de la jalousie, et je te livrerai entre leurs mains, et ils abattront ton lieu de débauche, et ils démoliront tes hauts lieux, et ils te dépouilleront de tes vêtements, et prendront tes objets de parure, et te laisseront nu et découverte. Et on fera monter contre toi un rassemblement d'hommes, et ils te lapideront avec des pierres, et te transperceront avec leurs épées, et ils brûleront tes maisons par le feu, et exécuteront sur toi des jugements aux yeux de beaucoup de femmes. Donc, on en arrive, c'est ce qui est surligné, qu'on trouve dans l'autre texte, au cas classique, hein, c'est-à-dire la lapidation, bien connue avec le récit de la femme adultère dans Jean 8, mais qu'on trouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 22, les versets 21 et 24, c'est là où c'est en quelque sorte théorisé. La question de transpercer, c'est pas une loi forcément appliquée ou instituée, mais c'est un élément que l'on trouve dans le livre des Nombres avec l'affaire de Pinéas qui va transpercer. Et donc ça a pu être repris. Et puis brûler les maisons, ça fait pas partie en principe des condamnation des femmes adultères. On le trouve aussi dans Ézéchiel 23. Comment expliquer cela? Je pense qu'on peut l'expliquer par le principe du harem, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'interdit. L'interdit, c'est une loi qu'on utilise dans le cadre de la guerre. On trouve ça, par exemple, dans le livre de Josué, notamment quand il y a l'attaque de Jéricho. L'idée est la suivante, il ne s'agit pas de la défendre, hein, je vous l'expose simplement. Quand Israël fait la guerre, et c'est le cas à Jéricho, il doit passer tout le monde par le fil de l'épée, et il doit tout détruire. L'idée la suivante, c'est qu'on ne fait pas la guerre pour s'enrichir, ni pour asservir quelqu'un, ni pour récupérer son magot. Et donc, le principe de l'interdit, de vous à l'interdit, c'est le fait qu'on ne va pas tirer profit de la situation. Pas la guerre à un pays pour récupérer son pétrole, par exemple. Ça ne se fait pas, ça. Jamais. Ou son cacao. Hein. Donc, il ne s'agit pas de défendre cette façon de faire. Il s'agit, je trouve, de défendre ce principe qui est de ne pas s'enrichir, de ne pas faire la guerre pour s'enrichir. Vous voyez, quand on se demande c'est quoi une démythologisation d'un texte biblique, on parle toujours de Bultmann, etc., démythologiser un texte biblique. Mais démythologiser un texte biblique, ça peut par exemple être de dire que le principe du rerem, donc de vouer l'interdit, n'a jamais eu cours dans les faits, mais par contre, il importe de maintenir vivace l'esprit du texte. Donc si effectivement c'est, disons, une règle qui interdit de s'enrichir sur le dos d'un conflit armé, alors c'est ça qu'il faut appliquer. Et après, trouvons les moyens éthiques pour mettre cela en place. C'est, vous voyez, la démythologisation, c'est ce que va faire Jésus dans le sermon sur la montagne. Quand il dit que finalement... On vous a dit que, mais moi je vous dis. C'est-à-dire retrouver l'esprit de, retrouver l'intention. Et c'est l'intention qui doit prévaloir, et pas la lettre. Donc on peut trouver ça scandaleux dans la lettre, de vouer à l'interdit, mais le principe est quand même bigrement intéressant. Et si on peut l'appliquer sans être prisonnier de la lettre, ça peut être bigrement intéressant. C'est convaincant, ça? Moi, bon. Donc, on en est au verset 42. Donc, je satisferai ma fureur sur toi et ma jalousie se retirera de toi. Je me tiendrai tranquille. Je ne me courroucerai plus. Oui, mine de rien. C'est quand même un petit verset qui montre qu'il ne faut pas prendre le texte biblique à la lettre. Parce qu'on ne peut pas revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de quelqu'un qui vient d'être lapidé, trucidé et brûlé. Oui, c'est ça. Ça, c'est de quoi rendre la personne schizophrène. Donc, ça montre bien qu'on est dans une lecture, enfin, qu'il faudrait entreprendre une lecture métaphorique, qu'il ne s'agit pas de lapider, de transpercer, etc. Parce que sinon, ça fait comme dans les corridas. À la fin, le taureau ne se relève pas pour saluer l'assistance. Donc, ce n'est pas du théâtre. C'est pas... Donc là, il y a une dramaturgie qui, par ce petit verset de mine de rien, verset 42, dit « Attention, hein, c'est pas à la lettre qu'il faut appliquer le texte. » Bien dans l'intention. On est là pour vous faire savoir que ce que vous faites, c'est l'équivalent de clocher des deux pieds. Donc le but, c'est que vous changiez de voie, mais ce n'est pas en vous éradiquant qu'en fait, on envisage vraiment de régler le problème. On vous en parle de manière radicale, pour que ça fasse un peu choc, que vous preniez conscience, mais bien sûr que l'idée, c'est qu'on assainisse la situation. Verset 43. Parce que tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse et que tu m'as irrité par toutes ces choses, voici, moi aussi, je fais retomber ta voix sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel. Tu ne commettras pas l'infamie par-dessus toutes tes abominations. Voici tous ceux qui font des proverbes, feront un proverbe sur toi, disant, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui avait en horreur son mari et ses enfants, et tu es la sœur de tes sœurs qui avaient en horreur leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne, au sens de Hittite, et votre père était un Amoréen. Et ta sœur, l'aînée, c'est Samarie. Samarie qui demeure à ta gauche, elle et ses filles. Et ta jeune sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome et ses filles. Alors, difficile de distinguer l'historique du symbolique dans cette histoire. Parce que Samarie, c'est le royaume du Nord. Donc jusque-là, tout va bien. Sodome, ville mythique ou ville historique ? Difficile à dire. Et ce qui est un peu étrange, c'est qu'on est ensemble une ville historique et une ville mythique. Mais sur le plan littéraire, pourquoi pas ? Quelqu'un comme Umberto Eco n'arrête pas de faire des trucs pareils. Et c'est pas le pire des écrivains. Bon, il n'est pas improbable qu'Ézéchiel puisse utiliser deux matériaux de nature différente. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'il y a ici chez Ézéchiel une indication à caractère quand même un peu historique sur l'histoire d'Israël. Vous savez, on est parfois sur ce fantasme d'un tout Israël unifié qui sort d'Égypte et qui arrive comme un seul homme en terre promise. Bon, en fait, les choses ne se sont pas faites comme ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement une population qui est sortie d'Égypte et qui s'est mêlée à une population autochtone. Et puis il y a des cités qui se sont constituées. Vous voyez, quand on parle d'aînés et de cadets, c'est que dans l'ordre du temps, des choses se sont produites et qu'on n'est pas, comment dire, de façon synchronique dans un même temps. Tout ne s'est pas fait dans le même moment. C'est-à-dire que l'histoire biblique a tendance à lisser et uniformiser des processus qui ne sont peut-être pas de la même époque. C'est pas un reportage. Et comme je continue à suspecter qu'Ézéchiel soit un écrit assez ancien, il serait peut-être témoin d'un moment où le texte n'est pas encore, l'histoire n'est pas encore lissée et harmonisée. Et Sodome, ici, n'a pas, disons, la qualité, c'est neutre, que lui attribuera le livre de la Genèse. Sodome pose problème, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Ici, c'est la question de l'orgueil, de l'abondance de pain, de l'insouciance du repos et de l'absence de conscience sociale, de ne pas s'occuper de l'affligé et du pauvre. Ce qui n'est pas tout à fait le problème de la Genèse. Le problème de la Genèse, pour Sodome, c'est le rapport au même. C'est-à-dire que tout ce qui est étrange, tout ce qui est étranger, tout ce qui sort de la norme que Sodome s'est posée, va être raboté. Il y a cette histoire juive qui raconte que quand un étranger arrivait à Sodome, ce qu'on faisait, c'est qu'on le mettait au lit. Et s'il dépassait du lit, on coupait ce qui dépassait. Et s'il était plus petit que le lit, on l'étirait de façon à ce qu'il soit normé. Donc c'est le rapport au même. Alors, le verset 47 pourrait nous donner l'impression que ça s'arrange pour Jérusalem. « Mais tu n'as pas marché dans leurs voies, qui étaient des voies pas terribles. Tu n'as pas marché dans leurs voies, tu n'as pas fait selon leurs abominations. » On a l'impression qu'il y a un bout de rédemption. « Mais comme si c'était bien peu, tu t'es corrompu dans toutes tes voies, plus qu'elles. » C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Vous voyez, c'est un petit jeu rhétorique. On a l'impression qu'en fait, c'est pas si grave. Non, en fait, c'est pire. Une sorte d'intensité dramatique. Bien, je suis vivant, dit l'Éternel, que Sodome, ta sœur, elle et ses filles, n'a pas fait comme tu as fait, toi et tes filles. Voici, c'est ici l'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, abondance de pain, souciance du repos, elle les a possédées, elle et ses filles, mais elle n'a pas fortifié la main de l'affligé et du pauvre. Elles se sont élevées et ont commis des abominations devant moi. Je les ai ôtées lorsque je l'ai vu. Et Samarie n'a pas péché selon la moitié de tes péchés. Tu as multiplié plus qu'elle tes abominations et tu as justifié tes sœurs par toutes tes abominations que tu as commises, etc. Je saute au verset 53. Je tournerai en délivrance leur captivité, la captivité de Sodome et de ses filles, la captivité de Samarie et de ses filles, et la captivité de tes captifs au milieu d'elles, afin que tu portes ta confusion et que tu sois confuse de tout ce que tu as fait en ce que tu les consoles. Et tes sœurs Sodome et ses filles retourneront à leur ancien état, Samarie et ses filles retourneront à leur ancien état, et toi et tes filles, vous retournerez à votre ancien état. Donc, c'est ce qu'on appelle la teshuva, évidemment, hein, le fait de retourner au bon état. Donc, shuv, retourner, c'est la teshuva en quelque sorte. Donc, certains diront la repentance, mais vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de place pour la repentance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il est dit tu vas regretter. Non, tu vas être confuse. Alors peut-être que c'est une forme de repentance ou de regret, mais en tout cas, il y a une prise de conscience, et puis voilà, ça change. Mais il n'y a pas forcément une humiliation, en tout cas. Bon. Peut-être parce qu'il y a une économie de mots, et que ce qui est important, c'est de dire voilà, qu'un autre avenir est possible. Qui est justement, ce côté inexorable va être arrêté. Il n'y a pas de fatalité dans cet emballement. Et quand on dit qu'on n'a plus les leviers pour interagir, c'est faux. C'est faux parce que si on abandonnait le vocabulaire hébreu et qu'on prenait du côté du grec, on pourrait dire, au fond, ce qui est à l'œuvre ici, c'est un daimon, un démon, une puissance en quelque sorte, hein. C'est pas forcément péjoratif. Mais cette puissance, elle n'est pas supérieure à la puissance que peut délivrer l'Éternel, pour reprendre ce coup-ci le vocabulaire biblique. Pour le dire de façon moins théologique, ce texte a tendance à dire vous avez la capacité d'enrayer cette mécanique infernale. Vous avez la capacité par vous-même individuellement, mais peut-être pas seul. Le problème, c'est que Jérusalem, là, est individualisée, mais ça reste quand même une cité. Mais le fait que la métaphore anthropologique s'adresse à l'individu, alors, sauf si on veut faire une allégorie, mais a priori c'est plutôt une métaphore, montre que c'est une prise de conscience individuelle, mais plusieurs prises de conscience individuelles, qui peuvent enrayer cette mécanique et qui peuvent faire une sorte de retour à la normale. Donc retour à l'ancien état ici. Bon, on peut sauter au verset 60. Le verset 60 est intéressant parce que il va ici mettre en contraste l'attitude de Dieu par rapport à l'attitude de Jérusalem. Jérusalem ne s'est pas souvenu de sa jeunesse. Et ici, au verset 60, c'est Dieu qui parle, « Je me souviendrai de mon alliance avec toi dans les jours de ta jeunesse. » Et j'établirai pour toi une alliance éternelle, et tu te souviendras de tes voies, et tu seras confuse quand tu recevras tes sœurs, tes aînées, avec celles qui sont plus jeunes que toi, et que je te les donnerai pour filles, mais non pas selon ton alliance. Et j'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes et que tu sois honteuse, et que tu n'ouvres plus la bouche à cause de ta confusion, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est-à-dire que Jérusalem ne se souvient pas de sa jeunesse, pas de conscience. L'Éternel, lui, a cette conscience-là, a ce souvenir-là, et c'est ce qui permet de pouvoir neutraliser toute cette histoire qui part de travers. Avec le pardon, qui est ici le verbe kafar, et qui donne le mot kiporet, c'est-à-dire c'est le couvercle de l'arche d'alliance, sur lequel, une fois par an, pour Yom Kippour, c'est toujours la même racine, le grand prêtre venait faire l'aspersion pour le pardon de tout le peuple. Donc, on a ici quelque chose qui est aussi une évocation du Yom Kippour, du jour du pardon. Alors maintenant, si on fait marche en arrière, toute, et que on regarde le chapitre 23, donc, il faut que je retrouve ma feuille et ça va aller. Eh bien, elle est là. Donc, ça commence de la même manière. La parole de l'Éternel vint à moi, disant « Fils d'homme ». Et là, la métaphore change. Il y avait deux femmes, filles d'une même mère, et elles se prostituèrent en Égypte. Elles se prostituèrent dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles furent froissées. Là, les seins de leur virginité furent pressés. Et leur nom était Ohala, l'aînée, et Oholiba, sa sœur. Et elles étaient à moi, et elles enfantèrent des fils et des filles, et leur nom, Samarie et Ohala, et Jérusalem, Oholiba. Alors, là on a une autre métaphore, et puis surtout on a une autre histoire. C'est une histoire qui commence en Égypte. Et c'est en Égypte que commence commence le problème, que commence la prostitution, avec deux sœurs, d'ores et déjà, voyez, Jérusalem et Samarie. Ce qui laisse entendre que ces deux entités sont déjà existantes, et que ce n'est pas un schisme après Salomon qui ferait la coupure. Alors, ce sont des noms qui sont dérivés de O.L., qui signifie la tente, soit parce que ça rappelle le caractère nomade du peuple, le peuple hébreu qui traverse, soit parce que ce serait le nom des pavillons sur les hauts lieux, les pavillons qui sont des lieux de prostitution. Peut-être que c'est des noms qui ont eu cours, des noms de lupanar en quelque sorte. Ensuite, deux sœurs qui épousent un homme, ça reprend les figures classiques de Jacob, par exemple. Et on trouve ça aussi à Rachamra ou Garit, où le dieu cananéen El épouse deux déesses sœurs, en quelque sorte. Et ce que l'on peut noter, c'est que ce qui va les fasciner, en fait, c'est le côté exotique de ces personnes, enfin des populations auxquelles elles vont se prostituer. Donc, Ohala se prostitua et se passionna pour ses amants, pour les Assyriens, ses voisins, vêtus de bleu, gouverneurs et chefs, tous beaux, jeunes hommes, cavaliers montés sur des chevaux. Donc la mention est importante parce que les chevaux, ça n'existe pas en Israël. Il y a des ânes, probablement des chameaux. Mais les chevaux, c'est soit l'Égypte, soit effectivement les populations assyriennes, puis babyloniennes aussi. Donc il y a une sorte de fascination. Elle se livra à ses prostitutions avec eux. Tous l'élite des fils d'Assur, et avec tous ceux pour lesquels elle se passionna, avec toutes leurs idoles, et elle se rendit impure. Donc elle n'abandonna pas ses prostitutions qui datent de l'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, et ils avaient pressé ses seins de sa virginité, et avaient versé sur elle leur prostitution. Donc, moment initial, l'Égypte, et ça perdure. C'est comme si, en fait, il n'y avait eu aucune inflexion, comme si elle était passée de l'un à l'autre. Donc la phrase que vous aviez déjà vue dans le texte précédent. Ensuite, Oliba vit à peu près le même genre de choses. Au verset 15, on voit que c'est du côté de Babel que ça se joue. Donc, qu'est-ce qui plaît chez les Chaldéens ? Bon, c'est qu'ils portent des ceintures sur les reins, ils ont des tiers flottantes sur leur tête, ils ont l'aspect de grands seigneurs, donc à la ressemblance des fils de Babel, de la Chaldée, pays de leur naissance. Au passage, Abraham est issu de Chaldée, Ur. Et elle se passionna pour eux en les voyant de ses yeux et envoya des messagers vers eux en Chaldée. Donc là aussi, elle est proactive. Elle ne subit pas. Elle est entreprenante. Donc les fils de Babel vinrent vers elle dans le lit des amours et la rendirent impure par leur prostitution. Et elle se rendit impure avec eux. Puis son âme se détacha d'eux. Alors, l'âme... C'est le fait que quelqu'un se tienne face à quelqu'un ou quelque chose. Donc, le fait que l'âme se détache de quelqu'un, ça signifie qu'on se détourne de cette personne-là. Idéalement, l'âme, c'est quand on est face à Dieu. Mais l'âme de quelqu'un, c'est le fait que cette personne se tienne face à un autre que lui. Donc, elle se détache, et elle découvrit ses prostitutions, et elle découvrit sa nudité, et mon âme, c'est Dieu qui parle, se détacha d'elle, comme mon âme s'était détachée de sa sœur. Donc, il y a Dieu qui se détourne d'elle, ce qui correspond à l'opposé de ce qui avait été vécu dans le chapitre 16. Là, elle multiplie ses prostitutions, donc c'est l'engrenage. Se souvenant des jours de sa jeunesse. Et vous voyez là, c'est paradoxal. Parce que tout à l'heure, le problème, c'est qu'elle ne s'était pas souvenue des jours de sa jeunesse. Et du coup, elle avait été ingrate, non reconnaissante. Et là, on dit qu'elle continue sa prostitution parce qu'elle se souvient des jours de sa jeunesse. Et alors, où est le problème ? Et bien, c'est qu'en fait, c'est pas la même jeunesse. C'est que dans un cas, on a une jeunesse où on raconte que Dieu a pris soin d'elle. Et là, en fait, c'est la prostitution dès le départ. Donc, en se souvenant des jours de sa jeunesse, elle se souvient, en fait, de ses premiers amours. Et c'était là l'autre élément du narcissisme. C'est que la posture narcissique fait qu'on est dans une sorte de désir d'éternel recommencement. C'est-à-dire qu'on veut toujours une première fois. On veut toujours la première fois. Et c'est ce qui pose problème, par exemple, dans des relations de couple, c'est que lorsque l'un voudrait que ce soit comme le premier jour, alors que l'autre aimerait bien que ça grandisse un peu, que ça mûrisse, disons. Et le narcissique, c'est celui qui veut retrouver le goût, l'intensité ou le quelque chose de la première fois. Et qui, du coup, n'est pas dans l'élaboration, la construction, tout ce que vous voulez. Donc là, elle se souvient de façon pathologique des jours de sa jeunesse qui étaient des jours pathologiques, en fait. Verset suivant. Alors là, la traduction, elle est carrément amusante. Et elle se passionna pour ses concubinaires. C'est le masculin de concubine, dont la chair est comme la chair des ânes. Et alors là, la traduction de Darby, elle est assez amusante. Et dont le flux est comme le flux des chevaux. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est traduit par flux. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme traduction. C'est un apax, donc ce n'est pas facile. Je pense que si vous avez le nez sur le texte hébreu, vous ne trouverez pas. Alors, c'est le chapitre 23, le verset 20. Vous avez quoi, vous ? Oui, dites-moi, Françoise.
Oui, non, parce que je trouve que on étudie le texte, on le replie, on le retourne, mais est-ce qu'on sait vraiment comment étaient les gens qui l'ont écrit? Parce qu'ils étaient peut-être un peu aussi parfois. C'était une édition obsédée, ces gens. Ah, c'est un truc. Hein, je... Des heures et des heures. Oui, non, oui, avec, contre. Non, mais c'est bizarre. Moi, je ne suis pas du tout bégueule, mais rien. Mais je trouve que quand j'étais en littérature, c'est pareil. On nous faisait étudier des textes très poétiques. Ça, à la fin, moi, un jour, j'ai dit au prof, mais est-ce que vous êtes bien sûr que Victor Hugo, il n'a pas écrit ça comme ça, parce qu'il l'avait dans le cœur et parce que sa fille était morte, mais il n'a pas décortiqué pas comme vous faites. Alors, elle m'a regardé.
Bon. Alors moi, je vais vous faire une autre réponse que votre professeur de lettres. Je pense que notre décortiquage est bien en dessous de ce qu'il devrait être. Parce que ce qu'est l'homme est bien plus épais que le texte qui en découle. Et donc, même si c'est fait écrit d'un seul jet, ce sont en fait des heures et des heures, voire des vies et des vies qui sont condensées dans cette écriture-là. Surtout quand ça a été écrit par plusieurs. Et là, en fait, négligemment, vous pourriez vous dire, entre le chapitre 16 et le chapitre 23, il y a soit l'intention, effectivement, de dire les choses autrement pour bien faire rentrer le message dans le cerveau, soit, en fait, on prend deux traditions que l'on met dans un même ensemble littéraire. Et du coup, si ce sont deux personnes, vous voyez, ça augmente encore l'épaisseur de sens. Et donc, si on prend n'importe quel livre aujourd'hui, vous en avez au moins pour 60 pages. Bon. Là, le livre d'Ézéchiel, en quelques chapitres, va vous faire les 300 pages d'un traité. C'est-à-dire que, moi, je trouve qu'au regard de la littérature actuelle, c'est un texte qui fait une très grande économie de moyens. Mais il a cette puissance d'évocation qu'ont les textes à caractère symbolique, disons. Et alors c'est vrai qu'il y a une métaphore filée sur la prostitution. Une fois de plus, je dis que... Alors je suis d'accord, hein, on ne sait pas qui étaient ces gens. Enfin, ça, il suffit de regarder un petit peu à nous pour savoir que l'interdit est un petit peu structurant et fondateur. Disons que ça, pourquoi il y a des interdits, ça on peut l'imaginer. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas de tabou, paradoxalement. Parce qu'en fait, la fameuse traduction du flux, ou je ne sais pas comment c'est chez vous, en fait, ça serait le membre, si on veut une traduction très euphémique. Ouais. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais après, ça s'arrange pas. Mais ça montre. Alors, on peut faire deux interprétations de cela, de cette forme. Soit on peut se dire effectivement, ce sont des obsédés, etc. Alors, il est difficile. On va commencer par l'aspect positif. Il peut être intéressant, effectivement, de retrouver le contexte socio-culturel qui a vu l'émergence du texte. D'ailleurs, il faut le faire, c'est ce qu'on appelle la critique historique. Donc, c'est important. Vous voyez, l'essayer de le situer dans le temps, de savoir où, qui. Et pour qui? Bon, ça, c'est ce qu'on avait fait la première séance. Donc ça permet de savoir quel est, par exemple, le matériau culturel dont dispose l'auteur, pour éviter les surinterprétations. Hein, l'idée, c'est de... L'intérêt de la critique historique, c'est d'éviter la surinterprétation, de se dire, on ne peut pas faire dire ça au texte parce que c'est quelque chose qui n'était pas accessible à l'époque, par exemple. Le travail d'interprétation, ça consiste à voir dans le sens qui émerge du texte quelque chose qui, pour le texte biblique, pourrait nous permettre de mettre en lumière des aspects de notre aujourd'hui. Et le texte biblique, je crois, n'a pas pour fonction, n'a pas pour objectif de rendre compte de l'état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire une relation du moment où c'est écrit, mais il est infusé dans ce bain-là. Donc on peut en retrouver des traces, mais on ne peut pas retrouver l'histoire au sens historique contemporain, parce que ce n'est pas l'intention du texte.
Est-ce qu'on a les documents, justement, pour nous donner cet environnement ?
Oui, on a des documents, parce qu'on a des textes qui présentent plusieurs aspects de la vie à l'époque. Non, à cette époque, ce n'est pas les Juifs qui écrivent, c'est plutôt du côté de Babylone qu'on a des choses. On avait aussi la littérature acadienne, etc. La littérature juive, vous voyez, elle arrive bien après le retour d'exil, en fait. Donc, on n'a pas grand-chose sur cette époque-là. Il y a une sorte d'impossibilité, de toute façon, à retrouver une civilisation. Pourquoi ? Prenez un livre de sociologie aujourd'hui, ça parle de nous et ça parle pas de nous, quoi. Je veux dire, on dépasse toujours ce qu'on en dit. Le principe de la sociologie, c'est d'épuiser le sujet. C'est-à-dire qu'on arrête une enquête en sociologie quand on n'a pas de nouvelles données, on n'a pas de nouveaux témoignages. Donc on arrête d'interroger les gens quand on n'a pas de nouveaux data. Donc après, on peut se dire, c'est au point. Sauf que quand vous lisez n'importe quel ouvrage de sociologie, c'est franchement en deçà de la réalité. Lisez, lisez le livre qu'on a fait sur l'oratoire du Louvre. 200 ans d'oratoire protestant, etc. Bon, vous allez avoir une idée de ce qu'est la vie à l'oratoire, mais en fait, c'est différent.
Voilà. De toute façon, on lit un texte avec ce que l'on est et l'époque où l'on est, de toute façon.
Oui, oui. Mais si on considère que le texte biblique a quelque autorité, donc il a des choses à nous apprendre, il faut qu'on puisse trouver quelles sont ses limites aussi. C'est-à-dire ce qu'il ne nous apprend pas ou ce qu'il n'a pas à nous apprendre. C'est-à-dire qu'il faut aussi éviter ce que j'appelle la surinterprétation, c'est-à-dire d'accorder au texte biblique un pouvoir qui ne serait pas en sa possession. Par exemple, un pouvoir prescriptif. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu vigilant comme on l'est. Bon, on a atteint notre horaire. En fait, par rapport à ce deuxième chapitre, chapitre 23... Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à redire de plus. Le verset 36, peut-être, je vous lis comme ça rapidement. L'Éternel me dit, « Fils d'homme, jugeras-tu Ohala et Oliba ? Déclare-leur leur abomination. » En fait, c'est révèle leur abomination. Nagad révélé, ce qui donne aussi le prophétisme, en fait. Le Le prophète, c'est celui qui révèle. Une fois de plus, pour vous enlever de la tête l'idée que le prophète, c'est celui qui va vous dire quels sont les 6 prochains numéros du loto et s'il fera beau ou pas demain. Donc, c'est celui qui révèle, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte l'archéologue. Ça serait le sociologue de l'époque, mais un sociologue qui n'a pas des critères personnels. A priori, le sociologue ne juge pas. Il expose, il met en relation. Ou alors il juge, mais sans condamner. Voilà, donc le prophète a pour but de révéler, de faire prendre conscience, de mettre en évidence. Voilà. Donc c'était l'un des intérêts de ce texte. Et puis, vous montrer que justement, il n'y a pas de tabou dans les textes bibliques, notamment sur la question de la sexualité, en fait. Bon, finalement, on n'a pas eu le temps de passer, mais il y a un autre moment où il y a un petit euphémisme. En fait, c'est quand on dit que Jérusalem écarte les jambes, par exemple, ou qu'il y a beaucoup de... Il y a en elle le bruit de tout le monde, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est un langage extrêmement cru, qui à la fois est là pour frapper l'imagination, et puis c'est ce qui fait dire à certains commentateurs qu'effectivement la pensée hébraïque n'est pas une pensée conceptuelle, pas une pensée d'abstraction, elle est très narrative, et peut-être qu'elle est d'autant plus efficace qu'elle est narrative, qu'elle nous prend dans notre expérience. Vous savez, des fois, on dit « trop compliqué, je ne comprends pas ». Là, ce n'est pas trop compliqué. Éventuellement, c'est pénible. Éventuellement, c'est lassant ou je ne sais pas. Mais tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire qu'on rejoint le lecteur dans une expérience, si ce n'est personnelle, du moins accessible, assez facilement. Et du coup, il peut se positionner. Donc, ça le met en situation de responsabilité. Pour que quelqu'un soit responsable, il faut qu'il puisse répondre, il faut qu'il puisse avoir compris la question, il puisse avoir été saisi par l'enjeu. Et c'est l'objet de ces textes qui, effectivement, ne sont pas des abstractions, ne sont pas conceptuels, mais mettent vraiment à disposition la question. Et en fait, ça problématise autrement qu'on le fait dans nos philosophies occidentales. Voilà. Oui.
C'est aussi, je crois, bon, évidemment, je connais pour les Hébreux, c'est très supérieur. C'est une langue poétique scandée avec cette richesse métaphorique, finalement, qui a pour objectif, intention de parler beaucoup plus que la langue sociologique, la langue qui fait état ou c'est bien historique, mental, dans les mentalités des différentes civilisations. Ce véhicule de l'homme politique donne une autre perspective.
Oui. Alors, à la fois, il y a cela, mais il y a un autre aspect, c'est la dimension parabolique. Aujourd'hui, on parlerait de la pragmatique du discours, par exemple. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire, on s'identifie, et puis à la fin, la personne qui raconte l'histoire dit « ce personnage, c'est toi ». C'est ce que fait Nathan avec David, hein, après l'épisode Bethsabée. David qui dit « mais dis-moi qui est cet homme, je lui fais sa fête », et Nathan qui lui répond « cet homme, c'est toi ». Bon, ben là, c'est la même chose. Hein, vous avez dit « mais punaise, mais c'est pas de la prostitution, ça bousille le marché, etc. Enfin, je veux dire, c'est ignoble, etc. » Bon. Si je vous dis, en fait, c'est vous. C'est une image. Hein. Vous allez être beaucoup plus saisi que si on décortique des trucs, etc., auxquels vous n'adhérez pas parce que ça vous semble... ça ne vous concerne pas. Parce que c'est un bel ouvrage intellectuel, mais ça reste à distance. C'est le problème de l'abstraction et de l'objectivation, en fait. Là, on est embarqué dans l'histoire... Et ça marche un peu mieux, disons.
Oui, parce qu'à ce moment-là, moi, je vous dirais, je préférais être la vraie prostituée, me faire payer, voilà, que d'être obligée de payer un homme.
Voilà. Du coup, si je vous... Voilà. Et du coup, ça vous fait changer de comportement. Voilà, c'est ça. Et oui, très bien.
Voilà, c'est la raison.
Sur ces paroles de métanoïa...